Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. À Cuba, les cendres de Fidel Castro sont enterrées en ce moment même, cérémonie dans l'intimité où l'on retrouve Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement est l'une des seules responsables politiques européennes présentes, non sans polémique. Nous serons en direct avec notre envoyée spéciale Sophie Delpont au début de ce journal. Nous reviendrons aussi sur ce référendum italien qui peut de nouveau bousculer l'Europe. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à très tard ce soir. Marie-Pierre Véraud nous attend à Rome, ville symbole du mouvement 5 étoiles opposé à Matteo Renzi. La cour d'assises de Bobigny a confirmé en appel hier soir la condamnation d'un ancien militaire rwandais pour son rôle dans le génocide des Tutsis. Procès dans un contexte de tension entre la France et le Rwanda, nous dira Benoît Bouscarel. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. À Cuba, aucun lieu ni monument ne porteront le nom de Fidel Castro après sa mort la semaine dernière, mais sa mémoire n'a pas fini de planer sur l'île des Caraïbes. Raúl Castro ayant appelé hier à défendre la patrie et le socialisme devant les cendres de son frère resté 49 ans au pouvoir. Des cendres qui, après avoir parcouru tout le pays, sont désormais à Santiago, ville berceau de la Révolution. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Cuba. Vous êtes actuellement à Santiago où l'enterrement des cendres du père de la Révolution est actuellement en cours.
Oui, le jour se lève doucement sur Santiago. Des centaines de Cubains sont postés le long du passage du cortège qui transporte les cendres de Fidel Castro. Beaucoup d'entre eux ont dormi ici, place de la Révolution. Ils ont tenu à venir saluer une première fois leur commandante. Dans le cortège, appelée ici la caravane de la liberté, ce cortège arrive au cimetière, va arriver dans les prochaines minutes. Du voyage commencé mercredi dernier et qui a transporté les cendres d'Hermassimo depuis jusqu'au berceau de la révolution cubaine. C'est ici que Castro avait attaqué la caserne de la Moncada le 26 juillet 1953. Un fiasco pour lequel il avait fait de la prison et prononcé son célèbre l'histoire Mapsoudra, et c'est dans la forêt de la
Maestra. Sophie Delpont, excusez-nous, nous allons vous couper malheureusement car la liaison est de très mauvaise qualité. On ajoute à votre propos que parmi les invités étrangers triés sur le volet, il y a Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, qui a créé la polémique hier en France. Elle a rejeté depuis Santiago les accusations de violation des droits de l'homme contre Fidel Castro.
Ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. Ben fournissez-moi des listes de prisonniers politiques et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Ce n'est pas le cas. Et moi, je considère qu'il y a beaucoup de désinformation parce que ça ne correspond pas effectivement au modèle que les États-Unis d'Amérique à l'époque ont voulu imposer à Cuba.
Sophie Delpont, est-ce que nous avons retrouvé Sophie Delpont? Non, donc nous allons passer à l'Italie. Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 23h ce soir. 46 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer par référendum sur la réforme constitutionnelle du président du Conseil, Matteo Renzi. Réforme qui prévoit notamment une réduction des pouvoirs du Sénat. Scrutin qui tourne au plébiscite pour ou contre Matteo Renzi. Une vaste majorité de la classe politique, de la droite aux populistes du mouvement 5 étoiles, appel à voter non. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Anne.
Vous êtes justement à Rome, ville tenue par Virginia Raggi, issue du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo.
Et oui, je me trouvais d'ailleurs ce matin dans le nord-ouest de Rome, à l'école d'Ottavia, un quartier populaire où justement a voté la maire de Rome. Elle a juste lancé un appel à la mobilisation. Le mouvement 5 étoiles voit en effet midi à sa porte. Après, il espère la victoire du non pour forcer à la démission de Renzi et à l'organisation de nouvelles élections pour lesquelles le parti de Beppe Grillo est donné favori. Pour l'heure, la participation approche les 20%, ce qui est assez élevé, légèrement plus que d'habitude et qui témoigne de l'intérêt de la population. Alors, que choisiront les Italiens? Eh bien, c'est un jour important, me disait ce matin une électrice dans ce bureau populaire, car c'est l'occasion pour nous de décider de notre avenir. Il nous faut le changement, j'ai donc voté oui. Oui, comme la plupart des personnes de plus de 50 ans que j'ai pu interroger ce matin, mais les jeunes, que ce soit dans ce bureau ou dans un autre, dans le quartier San Lorenzo, le plus ancien quartier de gauche de Rome, eh bien, eux votent non. Non, me disait ainsi une jeune étudiante, car Renzi veut concentrer les pouvoirs. Il porte atteinte à la démocratie en supprimant le Sénat. Beaucoup se pressent ce matin d'aller voter avant de se consacrer à l'autre grand rendez-vous pour les Romains ce dimanche, le derby de foot qui passionne. Les résultats du référendum seront connus bien plus tard que ceux du match, pas avant minuit. Berlusconi les attendra, a-t-il dit, chez lui avec une bouteille de champagne, ses résultats. Fidèle à son rôle de trublion, il a invité les jeunes à dire ciao à ce gouvernement.
Merci Marie-Pierre Véraud pour vos explications en direct de Rome. Nous avons retrouvé Sophie Delpont qui est en direct de Santiago à Cuba. On entendait Sophie à l'instant les propos polémiques de Ségolène Royal que vous avez recueillis hier. La ministre de l'Environnement rejette les accusations de violation des droits de l'homme à l'encontre de Fidel Castro. Comment ces propos ont-ils été perçus à Cuba ?
Eh bien, pour les Cubains ici, la répression est encore une réalité. Les comités de défense de la révolution fournissent toujours des informations au service de renseignement cubain. Alors les propos de Ségolène Royal sont accueillis soit par un léger sourire, soit avec une certaine colère, car il suffit de parler avec les Cubains pour comprendre qu'on est encore très loin de la liberté d'expression à défaut de liberté politique. Mais les choses évoluent doucement, comme le disait David, un habitant rencontré dans une maison d'hôtes. Depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro, les Cubains sont autorisés plus facilement à voyager, à aller dans les hôtels, autrefois réservés aux seuls touristes, et ils peuvent penser librement, mais pas encore dire librement ce qu'ils pensent. Et plus insidieux, l'évolution professionnelle des Cubains peut être bloquée à tout moment au moindre doute sur la fidélité au régime, car le concept de Fidel Castro, tout pour la révolution, rien contre la révolution, est toujours d'actualité.
Merci Sophie Delpont, envoyée spéciale de France Culture à Santiago, où sont actuellement enterrées les cendres de Fidel Castro. Et merci aussi à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. En Autriche, c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Le candidat du Parti de la Liberté, le populiste Norbert Hofer, est opposé à l'indépendant Alexander Van der Bellen. Cet affrontement a déjà eu lieu au mois de mai dernier, mais il avait été annulé pour vice de forme. Les résultats ne seront pas proclamés avant demain, jour du comptage du vote par correspondance. Autre élection, ce dimanche, elle concerne l'Asie centrale. L'Ouzbékistan tente en tout cas de se donner les apparences d'une démocratie après le décès du président Islam Karimov début septembre. 30 millions d'habitants sont appelés aux urnes aujourd'hui, Bruno Kaden.
Après 25 ans de règne brutal sans partage d'Islam Karimov, le pouvoir ouzbek tente de se donner une image plus présentable. Certes, le dauphin désigné par le clan au pouvoir, l'ancien Premier ministre Shavkat Mirziyoyev, va être triomphalement élu sans aucun suspense, mais le régime veut y mettre un semblant de forme. Il y a tout d'abord les trois autres candidats, pour que l'élection ne ressemble pas uniquement à un plébiscite, même s'il n'y a pas eu de débat entre candidats durant la campagne. Il y a ensuite les 1300 journalistes officiellement accrédités, dont 300 étrangers, et des observateurs étrangers. Mais il s'agit avant tout de personnes en provenance de la Russie, l'ami du régime, ou des pays de la CEI pro-russe. Une journaliste allemande vient d'être expulsée d'Ouzbékistan pour avoir travaillé sans visa, un visa que le régime ne donne qu'au compte-gouttes aux journalistes occidentaux. Plus significatif cependant, la libération récente de trois prisonniers politiques emblématiques. Samandar Kourkanov, 72 ans, plus vieux prisonnier politique du pays, embastillé depuis 23 ans. Bobo Mourad Razakov, 63 ans, défenseur des droits de l'homme. Et Tohar Haïdarov, un chrétien de 33 ans, en prison depuis 7 ans à cause de ses convictions religieuses. Le nouvel homme fort du pays, Shavkat Mirziyoyev, a d'ailleurs promis une amnistie générale pour décembre, sans que l'on sache s'il s'agit d'une libéralisation du régime ou simplement une manière de se faire bien voir de l'Occident au moment d'arriver au pouvoir.
Il avait été le premier homme à être condamné en France pour le génocide du Rwanda qui a fait au moins 800 000 morts selon l'ONU. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a confirmé hier soir la condamnation en appel de Pascal Simbikangwa. L'ancien militaire rwandais de 56 ans a été reconnu coupable de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans le massacre des Tutsis en 1994. Comme en première instance, il écope de 25 ans de réclusion criminelle. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Anne.
La défense de l'ancien militaire a tout de suite annoncé un pourvoi en cassation.
Ouais, jusqu'au bout de ce nouveau procès, Pascal Simbikangwa aura clamé son innocence. Pendant les 6 semaines d'audience, l'ancien capitaine s'est présenté comme un accusé politique qui aurait été diabolisé uniquement en raison de sa fidélité à l'ex-président Hutu Habyarimana. Pour ses avocats, la France tente sur le dos de Simbi Kangwa de se dédouaner à bon compte, de s'acheter une bonne conscience au rabais, disent-ils. 22 ans après le génocide et alors que les tensions avec le Rwanda sont ravivées depuis la réouverture récente d'une enquête sur le rôle présumé de Paul Kagame, l'actuel président, dans le déclenchement du génocide. Finalement, les jurés ont été plus sensibles au réquisitoire des avocats généraux et ont reconnu Simbi Kangwa coupable, coupable d'avoir organisé des barrages routiers à Kigali pendant le génocide pour débusquer et tuer les Tutsis. Ce matin, les parties civiles se disent soulagées à l'issue d'audiences marquées par des témoignages parfois imprécis. Alain Gauthier est le président du collectif des parties civiles pour le Rwanda.
22 ans après, on reçoit des témoins qui ont été interrogés 2, 3, 4 fois par des instances différentes. Et forcément, il y a dans leurs témoignages parfois des contradictions. Ils ne se souviennent plus de ce qu'ils avaient dit avant. Mais ça, je crois que c'est inhérent à tout procès de ce type, et ça a bien été souligné par le président et l'avocat général. Après, voilà, c'est aux jurés de se faire leur intime conviction à partir de tout ça.
Et parce qu'au Rwanda, comme en France ou en Belgique, le temps presse désormais pour faire justice. Partout, les témoignages se font de plus en plus rares et imprécis, et constituer de nouveaux dossiers d'accusation sera difficile, explique Alain Gauthier, qui espère quand même de nouveaux renvois aux assises en France. Début 2017.
Merci Benoît Bouscarel pour vos explications. Il est 12h40 sur France Culture. Tout de suite, la face cachée du globe. Et c'est avec vous, Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Anne. L'opposition argentine ne décolère pas depuis la promulgation d'un décret qui élargit le nombre de bénéficiaires d'une amnistie fiscale. Elle y voit une manœuvre du président Mauricio Macri pour en faire bénéficier son père, homme d'affaires épinglé dans le scandale des Panama Papers. Signe d'un regain de violence en Afghanistan, 516 000 civils ont fui depuis le début de l'année les zones où les insurgés, talibans et autres combattants du groupe État islamique font régner la terreur. La chef de la diplomatie birmane Aung San Suu Kyi a reporté la visite prévue lundi dernier en Indonésie. Cette annulation pourrait être due à la colère de manifestants indonésiens face au sort réservé à la minorité musulmane Rohingyas de Birmanie. Une première halte en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma a échappé mardi à une motion de défiance de la direction de son parti, l'ANC, après plusieurs scandales de corruption. Anne Dissès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique du Sud. Zuma a donc échappé une nouvelle fois à une sanction politique de son parti. Il est en phase pratiquement avec le surnom qu'on lui donne de président Teflon.
Oui, les Sud-Africains ont un peu d'humour. Non, on l'appelle Zuma Teflon, on l'appelle aussi Zuma 800, le nombre de fers de corruption dans lequel il est impliqué, qui serait aux alentours de 800, un petit peu moins. Mais ce désaveu de la société sud-africaine vis-à-vis de Jacob Zuma remonte à peu près à son élection. Il avait pris une part très importante dans la destitution de son prédécesseur, Thabo Mbeki. C'était très bien passé dans la société sud-africaine parce que l'ex-président Thabo Mbeki était parti sans sourciller. Mais les scandales n'ont cessé d'exploser dès son élection. La rénovation donc de sa résidence privée dans le KwaZulu-Natal, agrémentée d'une piscine, d'un centre de loisirs, qui ne profitait évidemment pas aux gens du village, mais à lui seulement. Et il y a eu en avril 2013 le Gupta Gate. C'est une famille indienne qui était très amie de Jacob Zuma et qui avait un pouvoir pas possible dans les affaires de l'État. En décembre 2013, il y a eu la mort de Mandela. Et là, la colère dans la société civile est devenue de plus en plus bruyante. Et on a vu à partir de là les premières demandes de démission de Jacob Zuma, de son poste de président, de son poste de président de l'ANC. Les choses étaient confuses et montraient à quel point il y avait une osmose entre les deux structures. En avril 2016, ce sont les élections locales qui marquent un net recul de l'ANC. Des grandes villes comme Johannesburg, comme Pretoria, comme Port Elizabeth sont gagnées par le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Et aujourd'hui, on peut considérer que le cœur de l'ANC est contaminé.
Trois ministres ont demandé sa démission. La direction de l'ANC a décidé mardi de le maintenir au motif qu'il ne fallait pas diviser le parti. Est-ce qu'au contraire, cela ne va pas affaiblir un peu plus l'ANC avant les prochaines échéances électorales de 2017 et 2019?
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même que l'ANC est quand même le parti qui a permis la fin de l'apartheid, etc., etc. Mais on est un peu dans une situation qu'on connaît un peu dans tout le monde, des aveux des élites politiques, etc. Mais c'est vrai que le poids de l'ANC est encore de l'effet. Donc c'est très difficile de dire aujourd'hui comment ça se traduira dans les urnes au cours du congrès de l'ANC qui va va élire son président, on peut penser qu'effectivement, là, le carcan bureaucratique pourra peut-être jouer encore. Est-ce qu'il jouera pour l'élection nationale? On peut penser qu'effectivement, il y aura un poids de la société civile qui sera beaucoup plus grand, mais 2019, c'est loin.
Merci beaucoup, Andy Sez. Merci à vous. Au pouvoir depuis près de 25 ans, le Parti démocratique socialiste PDS a certes remporté les dernières législatives de la mi-octobre au Monténégro, sans pour autant obtenir la majorité absolue. L'opposition a décidé de s'unir pour tenter de gouverner, mais Bruno Kaden, le pouvoir est parvenu à conserver sa majorité et à constituer cette semaine un gouvernement pro-Union européenne et pro-OTAN.
Pour rester au pouvoir, l'homme fort du pays, Milo Djukanovic, s'est mis en retrait et a désigné comme Premier ministre son plus proche allié, Duško Marković, 58 ans, ancien patron des services de renseignement monténégrins. Ce changement d'homme a permis au PDS de constituer une coalition avec les petits partis représentant les minorités ethniques comme les Bosniaques, les Croates ou les Albanais et avec des députés libéraux et sociaux-démocrates. Une majorité très courte, tenant à un siège, mais qui permet au Monténégro de poursuivre sa politique pro-occidentale avec une candidature à l'Union européenne et une adhésion à l'OTAN acceptée par l'Alliance et qui interviendra au printemps prochain. C'est d'ailleurs la ratification par la Skupština, le Parlement monténégrin, qui sera le premier objectif de Duško Marković, ce dernier l'ayant promis sans délai lors de son discours d'investiture. Il n'y aura donc pas de référendum sur l'adhésion à l'OTAN, comme le réclamait l'opposition pro-russe, le pouvoir estimant que sa victoire aux législatives suffisait, puisque le PDS a fait toute sa campagne sur ce thème de l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. Une opposition cependant très divisée sur le sujet, certains sont favorables à l'OTAN et à l'UE, d'autres juste à l'UE. Seuls les partis pro-russes et pro-serbes sont opposés aux deux adhésions, mais malgré leurs manifestations, ils ne sont pas parvenus à contrer le pouvoir sur ces thèmes.
1,4 milliard d'euros, c'est la nouvelle enveloppe que l'Union européenne vient d'allouer à la poursuite de l'exploitation de la Station spatiale internationale ISS et au projet d'exploration de Mars, ExoMars 2020. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet. La météo de votre après-midi s'est ensoleillée partout en France, sauf sur le Languedoc. Les températures de -1 à Colmar, à 12 à Toulon.